En immersion, un podcast des agences de l'eau.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Giraud.
Et moi, Louise Réjean.
Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle expérience.
Un petit voyage à travers la France, à la découverte des fleuves, des rivières, des cours d'eau qui font la beauté et la richesse de notre territoire.
Et surtout qui sont indispensables à la vie. Pour nous, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et tout ce qui compose le vivant. La sécheresse de 2022 nous a bien montré à quel point l'eau était une ressource précieuse et fragile.
Et finalement, nos rivières, nos fleuves, nos marais, on les connaît assez peu.
Voire pas du tout.
Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent avec ces rivières, qui les connaissent, les protègent, qui les aiment tout simplement.
Alors on vous propose de partir à leur rencontre.
Alors prenez vos bottes, votre ciré, votre maillot de bain et c'est parti, on vous embarque avec nous.
Balade arrosée au cœur du marais Audomarois.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Réjean et aujourd'hui je me trouve à quelques kilomètres de Saint-Omer dans le nord de la France. Saint-Omer, 15 000 habitants environ, ses canaux, ses bâtiments en briques typiques de la région et ses immenses marais. Et c'est justement à l'entrée de l'un d'eux que j'ai rendez-vous avec Luc Barbier qui les connaît sur le bout des doigts. Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Luc Barbier. J'ai 59 ans. Et je suis chargé de mission au Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale. Et je suis ornithologue.
Eh bien, du coup, là, on est à l'entrée d'un marais.
On est à la porte d'entrée du marais Audomarois, à l'une des portes d'entrée. Ici, on n'est plus tout à fait sur la commune de Saint-Omer, mais on va y arriver. On est sur la commune de Clermarais. En fait, Saint-Omer, c'est vrai que c'est une ville de pierre parce qu'elle est réputée pour ça, avec sa cathédrale, ses musées et ses vieilles pierres. Mais en fait, 88% de sa surface, c'est du marais. Donc, c'est une ville de terre et d'eau plus que de pierre.
Je suis spécialiste des petits passereaux qui nichent dans les roselières, les ensembles de roseaux qui sont dans les zones humides.
Alors un passereau, c'est comme un petit moineau, mais beaucoup plus fin, parce qu'un moineau, ça pèse une vingtaine de grammes, et une rousserolle ou un phragmite, ça en fait une dizaine. Et ceux des roselières chez nous, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont migrateurs transsahariens, c'est-à-dire qu'ils passent l'hiver en Afrique, donc ils s'en vont au-delà du Sahara, et ils traversent la Méditerranée, le Sahara, pour rejoindre leurs aires d'hivernage au Niger, au Mali, au Sénégal. Et ils reviennent tous les printemps à partir du mois de mars, principalement mars-avril, et ils repartent de chez nous à partir de juillet-août. En faisant 10-12 grammes, ils arrivent à se taper 10 000 km, certains 5 ans, 6 ans, 7 ans d'affilée. C'est impressionnant.
Alors moi je suis né ici, juste à côté, dans un petit village, et j'ai grandi dans le marais et je travaille depuis 40 ans dans le marais. Moi j'ai plein de bons souvenirs parce que j'avais plein de copains, c'est-à-dire que quand on a 8, 9, 10, 12, 14 ans, on fait plein de bêtises, des cabanes, des trucs comme ça. Ici l'avantage c'est qu'on pouvait se baigner, c'est qu'on pouvait aller à la pêche, c'est qu'on pouvait aussi au bout d'un moment aller observer des choses qu'on pouvait pas voir ailleurs. J'ai des souvenirs petits où quand on partait, on mettait un ver de terre dans un seau et on attrapait des épinoches, des épinochettes, on attrapait des salamandres et des tritons, c'était facile.
Le marais, il a comme particularité d'avoir 170 km de rivière, il a 570 km de fossés, il y a 13 200 parcelles, Il y a 4000 propriétaires, donc tout ça c'est très morcelé. Et il y a quelques sentiers, alors on essaye de les préserver. Ici, c'est une propriété publique qui appartient au département du Pas-de-Calais. Donc on peut, il y a une volonté du département de l'ouvrir aux visiteurs. Il y a d'autres endroits où c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de chemin qui était préexistant, parce que le marais a été conçu pour la voie d'eau, pour être cultivé avec des bateaux, etc. Donc les chemins et les routes, ce n'était pas le lieu. Et en fait, le meilleur moyen de le découvrir, c'est de prendre le bateau. Mais vu ce qu'il est tombé ce matin, vu ce qu'on risque de prendre sur le nez encore dans la matinée, on s'est dit que c'était préférable de faire une visite à pied et de pouvoir se rapatrier plus facilement à l'abri s'il se mettait à pleuvoir. Alors que quand on est en bateau, les bateaux ne sont pas couverts parce qu'on a des ponts partout. On a plus de 250 ponts dans le marais. Et si on commence à partir avec le bateau, on prend le risque de prendre une bonne douche et d'être bien trempé pour la journée.
Bon, merci de m'avoir préservé alors.
Voilà.
Bonjour.
Quand on part en bateau le matin, qu'on traverse tout le marais pour aller faire un boulot, faire un repérage ou un recensement, on vit aussi des grands moments de quiétude et puis d'intérêt parce que voilà, on a des images qui sont très sympathiques et puis c'est des moments où on a l'impression d'être un peu seul au monde, quoi, un petit peu.
Il y avait un petit oiseau là, un petit oiseau avec un bec blanc.
Ah, c'est une foulque mackerel. Donc c'est un oiseau tout noir avec une plaque frontale blanche et une corne et un bec tout blanc aussi, donc est facile à reconnaître. Il y en a presque un couple par fossé ici qui se nourrit des végétations en décomposition ou le gazon qui est sur les bordures de chemin.
C'est vraiment un oiseau emblématique
typique,
du marais.
Typique du zone humide, voilà, comme le cygne. Quelles sont les grandes particularités du marais d'Aumaroise? C'est qu'il est le dernier marais ou le premier marais cultivé de France, avec 430 hectares, une trentaine de producteurs, donc c'est une grande particularité. Il est marais habité, à peu près 150 habitations, dont 50 habitées de façon permanente. On a un gros enjeu sur l'eau et la biodiversité, comme toutes les zones humides, parce qu'en fait, en France, 6% du territoire est en zone humide et sur les 6%, 40% de la biodiversité s'y retrouve. Du coup, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants ici en particulier.
Oh, le Custel du Cynoïde. Ah. Vous avez entendu le buteur, non?
La dernière fois, oui.
Ici?
Oui.
Vous êtes sûr?
On pense, oui.
Non, parce qu'il y en a, mais a priori, ici, pour l'instant, ils n'ont pas recensé sur la réserve.
Quand le buteur étoilé est revenu nicher ici, la première fois où il a chanté le matin à 5h, je baguais des passereaux et j'en ai eu des frissons tellement on l'attendait. Et le jour où il est arrivé, c'était vraiment une grande, grande satisfaction. Et puis voilà, on a des grands moments à passer.
On peut dire que vous êtes un enfant du marais, quoi.
Un petit peu, ouais. Le marais d'Aumaroise au 7e siècle, il y a 3 moines qui sont arrivés sur une butte, sur une frêle esquif, au gré du vent. Ils ont accosté et le lieu a été béni des dieux. Donc ils ont construit leur première église à cet endroit-là. Et du coup, ils ont fait comme tous les moines à cette époque-là, c'était de travailler avec les populations locales pour développer le territoire, etc., etc. Donc ils ont commencé à faire des aménagements, à gérer l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend plus compte, mais le pouvoir, il a toujours été sur l'énergie. Et la première énergie qu'ils ont été chercher, c'est celle de la rivière A. Ils ont canalisé la rivière vers le 8e, 9e, 10e, 11e siècle pour alimenter les moulins de l'abbaye, pour pouvoir moudre, pour pouvoir faire du papier, pour pouvoir faire du fer. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont rendus compte qu'il fallait aussi qu'ils gèrent l'évacuation de l'eau.
Le cave de Séti, c'est pas ça.
Ça, l'espèce de... cette espèce de gloussement là, c'est...
C'est la poule d'eau qui est là.
Ah, une petite poule d'eau.
Ouais.
Progressivement, il y a eu des aménagements qui ont été faits. Philippe d'Alsace, vers 1100, a créé la Grande Rivière, celle qui part à Gravelines. Cette année-là, il a fait baisser le niveau du marais de 33 cm.
Je la vois pas.
Elle est là, on voit son cul.
Et puis progressivement, on a fait des aménagements. La population de Saint-Omer au XIIIe, XIVe siècle, elle était de 40 000 âmes.
Ah oui, ça y est, je la vois.
Cette population, fallait la nourrir. Les moines ont amené les populations locales à commencer à cultiver des légumes aux portes de la ville, sur les marais hauts. Il fallait aussi gérer l'eau, donc ils ont creusé des rivières. Ils ont fait des bandes de terre qu'on appelle des lègres. Les rivières sont devenues des wateringues, les fossés des watergans. Comme on est tout près de la Flandre, ils ont pris les dénominations flamingantes de l'époque. Et puis, ils ont commencé à mettre progressivement le marais en activité. Après, il y a eu des guerres, il y a eu d'autres étapes d'aménagement. Il y a Vauban qui est arrivé aussi, qui a mis des portes d'eau à la mer, qui ont empêché la mer d'avoir un flux et un reflux deux fois par jour. Du coup, de pouvoir imaginer valoriser et cultiver des terres dans le delta de l'Aa.
Voilà, contre le vent, là. Vent. Ouais. Ouais, vent du nord.
Ouh !
Donc c'est froid.
Ah oui, là on a un gros gros coup de vent.
Un bon coup de vent, puis après il y aura un petit grain.
Un gros coup de vent bien froid.
On a encore fait des moulins en 1870, des moulins d'Exor. Et les derniers marais impraticables ont été aménagés il y a 150 ans au maximum. Et c'est sur cela qu'on trouve aujourd'hui le plus de biodiversité.
On peut peut-être aller se mettre au sec. Hein.
Alors là, il pleut. Donc comme vous l'aviez prédit, voilà, après le gros coup de vent, eh bien il pleut. Nous sommes sous la pluie.
Donc on peut essayer de se mettre au sec.
On va essayer de se mettre à l'abri. Mmh. Et il pleut bien là.
Gérer une zone humide dans le temps long et même dans le temps court nécessite deux choses. C'est d'avoir une eau en quantité suffisante et de qualité suffisante.
C'est même des grêles, des petits grêles.
Ouais. Ah oui, c'est des petits grêlons, ah, carrément.
Si on n'a pas suffisamment d'eau et si l'eau n'est pas suffisamment de qualité et maintenant on va dire aussi de bonne température, on a forcément une altération. Quand la température de l'eau monte de 2 degrés, en été, comme c'était le cas à l'été 2022, c'est quoi les dégâts causés sur la faune et la flore? Sincèrement, on n'en sait pas grand-chose. On constate des effets sur des espèces visibles, mais sur toutes les espèces aquatiques, c'est beaucoup plus compliqué.
Maintenant, je saurais que qu'un gros coup de vent annonce.
Ah ben là, quand il arrive comme ça, généralement, il y a un truc qui arrive avec. Hein, ça.
Quand on a des périodes très sèches, qu'on a un gros orage derrière, il faut voir ce qui arrive dans les zones humides parce que l'orage nettoie les routes, nettoie tout. On prend toutes les particules fines, les THAP, enfin, tous les résidus pétroliers. Et tout ça arrive dans la zone humide sans prévenir. Et les dégâts qui sont causés dessus, ils sont forcément importants sans qu'on puisse toujours bien les estimer. Parce que ça nécessiterait des moyens phénoménaux dont on ne dispose pas.
Bonjour. Il y a beaucoup de gens qui se promènent aujourd'hui, malgré la pluie.
Ouais, mais on est dans le nord. Enfin, on est dans le Pas-de-Calais, mais on est dans la région nord. Donc les gens, ils sortent. Ils sortent, quelle que soit la météo. Puis on est beaucoup. Et les gens ont besoin de ce genre d'espace aménagé pour respirer. C'est une nécessité.
Donc finalement, vous ne manquez pas d'eau, mais votre problème, c'est la qualité de l'eau qui se dégrade.
On est 5 millions d'habitants, on a plein de grandes villes. Il y a des fois des départements où on vous demande de citer une ville, on a du mal. Ben, dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, c'est pas très compliqué. Entre Lille, Roubaix, Tourcoing, Maubeuge, Calais, Boulogne-Dunkerque, Cambrai, c'est facile. Et j'en ai oublié. On a des historiques. On a eu deux grandes guerres, on a des munitions qui sont en train de se déliter dans les sols à des profondeurs plus ou moins importantes qui créent des problèmes de pollution sur les nappes. On a l'héritage des charbonnages, on a chauffé la France pendant plus d'un siècle. On a une agriculture qui occupe 72% de l'espace, donc ce n'est pas une critique sur l'agriculture, c'est factuel. Du coup, les espaces naturels ils sont très réduits, on n'a que 8% d'espaces forestiers, 8 ou 9. Donc on est dans une situation très difficile, on a des grands ports aussi. Qui génère aussi des flux. Et quand on met tout ça dans le shaker, on dit l'équation elle n'est pas simple à résoudre chez eux.
Et là, on a tous les grands champs de nénuphars. Les nénuphars jaunes et blancs qui sont en train de sortir de l'eau, de leur léthargie.
Donc dans quelques semaines, on aura un champ magnifique de fleurs.
Le mois prochain, comme maintenant, il y aura des fleurs jaunes et des fleurs blanches partout sur ces fossés-là.
Alors c'est très très vert, il y a beaucoup d'espèces d'arbres.
Alors sur le Marais d'Omarois, je pense qu'on doit être à 450 espèces de plantes. En fait, on considère en France que les zones humides, c'est à peu près 6% du territoire national et c'est 40% de la diversité biologique. Ça veut dire que sur 6% du territoire, on a 40% des espèces de faune, de flore et de fonges. Donc les fonges, c'est les champignons.
Alors, il y a des saules, c'est des saules hein, ça?
Voilà, ça c'est des saules qui sont taillés en têtards. Donc le tronc qui est tout petit en bas et le houppier, donc les branches qui font une grosse boule. Et du coup, ça, par analogie à la larve de la grenouille ou du crapaud, on dit que c'est les saules têtards.
Quelles sont les solutions envisagées pour préserver cette zone naturelle?
Moi, j'ai une conviction qui est partagée, je pense, par pas mal de monde aujourd'hui, c'est qu'une des clés, c'est l'élevage. Conserver des éleveurs, c'est conserver des prairies. Une prairie, c'est pas beaucoup d'engrais, c'est quasi zéro phytocide. C'est un système fonctionnel qui stocke du carbone. À partir du moment où on la laboure, on relargue du carbone. Donc on contribue à alimenter la locomotive du climat. Qu'est-ce qui se passe quand on perd un éleveur? Qu'est-ce qui se passe quand on a un agriculteur qui reprend une exploitation, qui est jeune et qui dit « bah voilà, moi les prairies, j'en ai plus besoin, je les arase et je fais du maïs ». Ils vont casser la pâture, ils vont retourner la prairie, ils vont relâcher du carbone, ils vont limiter son côté infiltration, ils vont augmenter le ruissellement, ils vont arroser l'été, ils vont mettre des engrais et des phytos, et on se retrouve d'une prairie qui était neutre en termes de gros impacts, voire positive au niveau de l'eau, à une culture qui va être très nocive pour la préservation de la ressource en eau. Préserver les éleveurs, c'est préserver le capital de l'eau, des paysages et de la biodiversité demain.
Comment vous vous projetez dans les 5, les 10 prochaines années sur votre territoire?
En retraite. En retraite.
Ah, c'est un petit fragment de 5 ans.
C'est toujours lui qui fait cette espèce de petite crécelle.
Il faut continuer à agir pour changer les choses, pour sensibiliser, dénoncer certaines mesures qui sont délétères. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrête. C'est-à-dire la prise de conscience, tout le monde l'a, sur le climat, sur la dégradation de la qualité de l'eau. L'eau, c'est quand même une ressource indispensable à l'avenir de l'humanité. C'est 70% de notre masse corporelle. Garantir durablement à l'ensemble des habitants de la France et de la planète une eau potable au robinet.
Et puis là, il y a un petit rayon de soleil qui va arriver.
Il y a un petit rayon de soleil, mais timide.
Et avoir cette eau de qualité, c'est vraiment la bagarre qu'il faut avoir pour demain.
Voilà, on aura eu tous les temps.
Ouais. On n'a pas eu de canicule, hein.
Voilà, c'est la fin de mon voyage dans les marais de Saint-Omer. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour découvrir un autre cours d'eau ailleurs en France.
Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau cours d'eau et pour en savoir plus sur nos rivières et les actions menées au quotidien pour les préserver. Rendez-vous sur le site lesagencesdelEau.fr et sur les réseaux sociaux des agences de l'eau.